Nord de la Mésopotamie, 4370 avant Jésus-Christ, printemps. Ghana resta immobile de longs instants en observant la carcasse. Jamais la jeune fille n'avait vu un tel animal. Il était plus gros que tout ce qu'elle connaissait, 3 fois plus haut qu'un ours, large comme 10 buffles. Sa peau grise et ridée ressemblait aux croûtes de sol craquelées par le soleil, et ses oreilles pendaient comme des feuilles molles de palmier. Mais le plus incroyable était son museau, assez long et fin pour traîner jusqu'au sol, et ses 2 cornes blanches courbées. Leka observait elle aussi avec méfiance le monstre, reniflant l'odeur épouvantable de l'animal. La bête était morte. Les serviteurs des dieux lui avaient enfoncé plusieurs lances de cuivre entre les yeux. Ghana pensa avec horreur que son frère appartenait sans doute à la horde de bourreaux qui s'était chargée de ce massacre. Le cadavre du monstre avait été laissé sur place, au milieu du village, à proximité d'autres dépouilles d'animaux. Des milliers de cadavres à perte de vue, des animaux les plus inoffensifs aux fauves les plus dangereux. Des chèvres, des poules, des loups, des renards, des buffles, des rats, des sangliers, des martres, des biches. Tous égorgés. Des oiseaux avaient été abattus à l'arc. Des centaines de poissons avaient été tirés de la rivière grâce aux filets de lianes inventés par les dieux et abandonnés sur la berge. Les canaux qui passaient sous les maisons charriaient des torrents de poils, de plumes, de griffes, de crocs, d'écailles. Sa mère Maïka tira Ghana par l'épaule. Elle avait raison. Il ne devait pas s'attarder, pas se retourner. Il devait continuer à gravir le sentier dans la montagne, même si à chaque virage, il découvrait à nouveau la vision d'épouvante de leur village à feu et à sang. Leka trottait devant, puis s'arrêta pour attendre Ghana. La jeune fille, épuisée, progressait plus lentement que le groupe, les 2 bras passés sous son ventre lourd. Il marchait depuis longtemps à présent. Le soleil commençait à descendre sous la cime du plus petit des 2 sommets. Ils étaient 15 au total, hommes, femmes et enfants. Après les révélations de son fils, Maïka avait convaincu 4 familles voisines de les rejoindre. Ils avaient fui la nuit précédente. Pour la plupart, les autres ne croyaient pas aux menaces des dieux. Après tout, malgré toutes leurs inventions, les dieux n'étaient jamais qu'une poignée, seulement protégés par quelques serviteurs, le plus souvent des gamins qui portaient pour la première fois une arme. Quelle menace constituaient les dieux en réalité? Ils avaient eu tort de révéler leurs secrets aux hommes. Quel pouvoir leur restait-il? Maïka avait renoncé à les faire changer d'avis. Elle n'avait pas de temps à perdre. Bilik, son fils, leur avait assuré que les dieux avaient construit des barrages sur les fleuves, plus loin entre la plaine et la montagne. Ces barrages ne laissaient passer que de maigres filets d'eau, juste suffisant pour s'y laver et faire pousser des plantes. « Tout va céder », avait juré Bilik. « Les dieux veulent tout nettoyer avant de partir. » Maïka se laissa un peu distancer par le groupe et attendit sa fille. Elle passa sa main autour de la taille de Ghana avec tendresse, en cherchant des yeux un bâton suffisamment long et rigide pour fournir une aide à sa fille. Même si elle était certaine d'avoir pris la bonne décision en fuyant le village, Maïka se demandait comment allaient réagir les dieux. Pas ceux de la plaine, non. Ceux de l'Ararat. Elle se souvenait du monstre aux langues de glace, des esprits des grottes, des cracheurs de feu sous le sol, au fond des gouffres noirs. À choisir, elle préférait ces dieux discrets, même s'ils n'inventaient rien pour eux, même si leur colère pouvait être tout aussi mortelle. Avec le temps, aidée par la mémoire des parents et des parents des parents, on apprenait à connaître les réactions des dieux de la montagne. Une terre qui tousse, une langue de glace qui bave, une roche qui fume. Maïka aimait, au fond, revenir dans ces montagnes où elle avait toujours vécu. C'est ici qu'habitait son homme, Otek. Jamais ailleurs elle ne serait plus proche du ciel, des étoiles, plus proche des yeux d'Otek qui surveilleraient pour eux les rumeurs des esprits de la montagne. Son père, Avo, avait raison. Il ne fallait faire confiance qu'aux dieux que l'on connaissait. Avo était mort dans les flammes bleues pour cela. Ghana trébuchait à chaque caillou. Leur ascension serait longue et pénible. Sa fille était courageuse, mais c'est le bébé dans son ventre qui inquiétait Maïka, uniquement le bébé. La montagne n'aimait pas les très jeunes enfants. Son bébé Aloum était mort là-haut, c'est pour cela qu'ils étaient descendus rejoindre les autres hommes. Le regard de Maïka se perdit vers la plaine, désormais minuscule. D'épaisses fumées montaient du village. On percevait comme un écho sourd des hurlements mêlés de bêtes et d'hommes. Maïka souffla. Ils étaient partis à temps, à la bonne saison. Des fleurs bleues et rouges recouvraient les flancs de la montagne. Le bébé naîtrait sous le soleil. Le bébé des dieux, avait dit son fils Bilik. Il avait offert sa sœur aux dieux dans la cabane près de la cascade. Il avait ainsi gagné leur confiance. mais il restait un bébé, qu'il soit ou non un demi-dieu. Il aurait le temps de grandir, de prendre des forces suffisantes avant que la pluie d'étoiles froides ne recouvre à nouveau la montagne et qu'il ne se réfugie dans une grotte comme des bêtes. Maïka frissonna. C'est ce qu'ils allaient redevenir, des bêtes, apeurées, mais vivantes.